14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Il n'était pas démonstratif sur sa vie passée. Hein. Il n'a pas été très, très loquace sur sa vie antérieure. D'abord, pour moi, c'était quelqu'un de sympathique, donc c'est compliqué. Ça fait froid dans le dos un peu quand même.
Bonjour, son portrait robot, ce visage qu'on disait grêlé, hantait depuis 35 ans les policiers de la brigade criminelle. Il continuait à être épinglé au 36 quai des Orfèvres, comme un vestige familier, histoire de ne pas oublier d'autres visages, ceux de ses victimes. Le 29 septembre 2021, ce portrait robot a été remplacé par une photo, celle d'un homme portant des lunettes et une barbe bien taillée, celle de François Vérove, 59 ans. C'était lui, le grêlé. Il s'est donné la mort alors que l'étau de l'enquête se refermait sur lui. Au moins 5 crimes à son actif, des viols et 3 meurtres épouvantables où affleure le sadisme. Un ancien gendarme et ex-policier, longtemps insoupçonnable et insoupçonné, qui vivait avec ses terrifiants secrets. Comment François Vérove, citoyen modèle, a-t-il pu aussi longtemps glisser entre les mailles de l'enquête? A-t-il fait d'autres victimes et quels autres crimes va-t-on peut-être découvrir? Autant de questions que nous allons explorer avec nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, le grêlé. Septembre 2021, cet insaisissable violeur et meurtrier est enfin identifié. Sa traque avait commencé il y a 35 ans à Paris, après des viols et en meurtre, des victimes au profil ressemblant de toutes jeunes filles. En ce mois de septembre 1986, Bernard Pasqualini, chef de groupe à la brigade criminelle, est en pleine interrogation. Depuis 4 mois, au 36 quai des Orfèvres, ses 6 inspecteurs tournent et retournent les pages du dossier Cécile Bloch. Aucun d'eux n'a oublié la scène de crime découverte au 3e sous-sol du numéro 116 de la rue Petit, dans le 19e arrondissement de Paris. Le corps de la petite fille de 11 ans roulé dans un bout de moquette sale, une main levée vers le ciel comme dans un dernier geste de défense. Des marques de griffures et des bleus sur le visage sont en sweatshirt maculé de sang, le bas du corps dénudé, un cartable qui est au sol, des cahiers dispersés. Ce lundi 5 mai 1986, Cécile venait de sortir de l'appartement familial au 3e étage quand elle a été agressée. Elle a été violée et étranglée avec une cordelette qui a fini par l'étouffer. Le maniaque n'a pas laissé d'empreinte digitale, il portait sans doute des gants de cuir. Les enquêteurs sont toutefois optimistes. Ils ont recueilli de précieux témoignages qui leur font croire que le meurtrier pourrait être rapidement identifié. Ainsi, le demi-frère de la victime, Luc Richard Bloch, un étudiant de 24 ans, explique qu'il a quitté l'appartement familial vers 8h20. Il a laissé derrière lui Cécile, qui s'apprêtait, elle aussi, à sortir pour rejoindre le collège Georges Rouault. Luc se souvient d'avoir croisé un homme dans le monte-charge. L'ascenseur avait été volontairement bloqué par des allumettes. Un homme de 25-30 ans, qui lui a dit bonjour, cheveux châtains, une mèche sur le front, blouson de cuir, jean usé, basket Adidas et un visage à la vilaine peau portant des marques d'acné ou de variole. Le 14 mai, un portrait robot de cet homme à la peau marquée, celui du grêlé, est affiché dans tous les commissariats. À cause de cette allure négligée, la CRIM pense tout de suite à un SDF. Plusieurs sont interpellés, notamment deux qui dorment dans les caves de l'immeuble. L'inspecteur en chef Bernard Pasqualini s'interroge sur ce meurtre de bon matin. Un homme qui, ce lundi-là, ne travaillait pas, avait eu le temps de repérer sa victime, un rôdeur qui n'en serait pas à son coup d'essai. La CRIM recense donc les fichiers de viols et homicides récents. Travail fastidieux et ingrat à l'époque, l'informatique est inexistante, mais travail qui paye. Lundi 7 avril 1986, Sarah, 8 ans, a été agressée en prenant l'ascenseur alors qu'elle partait à l'école. Poussée dans un couloir, attachée avec des cordelettes, bâillonnée, violée, à moitié étranglée. Une trace de sperme est prélevée sur 3 Kleenex. L'homme est décrit par Sarah comme n'ayant pas les joues lisses. C'est le même homme, le grêlé, estiment les policiers de la CRIM. Lundi 27 octobre 1987, 13h, 17 mois après le meurtre de Cécile Bloch, Marianne, 14 ans, rentre du lycée. Dans l'ascenseur de son immeuble, rue Boulit, 14e arrondissement, un jeune homme lui montre une carte tricolore. Il se dit policier, c'est un contrôle d'identité. Marianne est entraînée chez elle, l'appartement est vide à cette heure-ci. Le faux policier sort une arme tirée d'un holster en cuir marron comme il en existe en dotation dans les forces de l'ordre. Il porte un blouson kaki comme les militaires, racontera Marianne après avoir été ligotée et violée sur le lit de sa mère. L'inconnu laisse ici aussi des traces de sperme sur la couette, puis quitte les lieux en plaisantant. « Je vais appeler l'ami de ta mère pour qu'il vienne te délivrer », dit-il. Les policiers sont persuadés que celui qu'ils appellent le grêlé est repassé à l'acte. Groupe sanguin A positif, le même que celui détecté lors du meurtre de Cécile Bloch et le viol de Sarah. Ils ne peuvent pas aller plus loin. À l'époque, la science ADN est encore une science-fiction. Et on va voir que cette science ADN va peser de tout son poids dans cette affaire. Avec le recul, on tique évidemment sur cette panoplie de l'agresseur dans les trois affaires. Faux policiers, des armes, un holster, un blouson militaire. Patricia Tourancheau, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, spécialiste des affaires criminelles, réalisatrice et auteure du livre, notamment le 36 histoires de poulets, d'indiques et de tueurs en série aux éditions du Seuil. Livre, c'est important à souligner, qui consacre 100 excellentes pages à cette affaire. Le grêlé, je le disais, cette espèce de panoplie d'uniformes presque militaires qu'on retrouve un petit peu dans ces témoignages. C'est une piste. Alors aujourd'hui, avec le recul, c'est facile de dire oui. Mais est-ce qu'à l'époque, c'est une piste qui est suivie ?
À l'époque, cette piste est relativement suivie, mais les enquêteurs de la CRIM ont plutôt l'impression qu'il s'agit d'un faux policier. Et il faut savoir quand même que sur Paris, il y a pas mal de pédophiles ou d'agresseurs qui se présentent comme un faux flic. Donc il y aura des investigations, mais surtout sur des policiers ou des gens des forces de l'ordre qui ont eu des antécédents judiciaires, c'est-à-dire des soucis avec la justice, qui ont déjà commis des délits, soit sexuels, soit des vols, et l'enquête se polarisera sur ces gens-là. Or, on sait aujourd'hui que Vérov, François Vérov, gendarme à la garde républicaine à l'époque, n'a pas commis de délit connu.
C'est ça, on le connaît pas à l'époque.
On le connaît pas, il est pas du tout dans les fichiers, il est pas mal noté, il a pas commis d'incartade au niveau de son boulot.
Il passe sous les radars, si je puis
dire.
Hein. C'est ça, donc en tout cas vous confirmez qu'à l'époque déjà il y a des policiers qui sont entendus, il y a des auditions qui se font et on va regarder certains profils.
Tardivement, hein. Enfin tardivement quand même.
Bonjour Christian Flèche.
Bonjour Jean-François Richard.
Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime avec nous. Vous êtes l'ancien patron du 36 quai des Orfèvres et à cette époque, à l'époque des premiers forfaits, si je puis dire, du grêlé, vous êtes déjà à la criminelle dans un groupe d'enquête. Vous avez bien connu cette affaire à son démarrage, Christian Flèche. Quelle est la difficulté de cette enquête? Je le disais, il y a trois victimes là pour l'instant. Il y a deux viols et une petite fille qui a été assassinée. Est-ce que la petite Cécile a été tuée parce que justement, elle a résisté peut-être plus que les autres à son agresseur ?
Très franchement, je ne peux pas vous dire et reconstituer ce qui s'est passé dans les derniers instants de cette malheureuse petite fille. Moi, je salue Patricia Tourancheau qui connaît parfaitement aussi cette enquête. Bonjour Patricia. Donc, elle connaît parfaitement l'enquête aussi. Et je veux dire simplement que c'est compliqué de résumer 35 ans en quelques minutes.
Bien
même.
Sûr.
Il est clair qu'en 1986, nous n'avions pas d'ADN. Il est clair aussi que quand on retrouve le corps d'une fillette tuée, on pense à des délinquants sexuels qui concernent des mineurs et on s'attache à trouver des rapprochements avec des synthèses qui étaient encore au balbutiement. On n'avait rien informatisé, on était encore à des fiches cartons. Donc les rapprochements, vous l'avez évoqué avec l'affaire du 13e, c'est tout le travail du groupe d'enquêteurs de la brigade criminelle que dirigeait à l'époque Bernard Pascalini, qui ont permis de retrouver des affaires au mode opératoire identique. Et finalement, l'ADN va nous orienter vers une autre affaire qui concerne le meurtre d'une jeune fille au père et de son employeur, et qui sont tous les deux majeurs et dont qu'on peut trouver très éloignés du mode opératoire de Cécile Bloch.
Tout à fait. Alors ça, on va le voir un peu plus tard dans cette heure du crime. Ce que nous disait Patricia Tourangeau, c'est que finalement, la personne qui agit, aujourd'hui, évidemment, on sait qui c'est, mais à l'époque, elle est... indétectable. Avec les méthodes que vous possédez à l'époque, c'est difficile de l'approcher.
Elle est d'autant plus indétectable que, comme Patricia l'indiquait, elle n'avait jamais fait parler d'elle. Donc c'était extrêmement difficile que notre attention soit attirée sur elle.
Bien sûr.
Mais on n'avait pas d'état d'âme, et on n'aurait pas eu d'état d'âme d'ailleurs, ou tel policier ou tel ou tel gendarme.
Je l'espère, parce que vous confirmez qu'il y a bien eu des auditions effectivement de certains collègues qui auraient pu avoir des penchants pédophiles, etc.
Mais ultérieurement. Ça
Patrice,
se passe en 87.
Donc petit à petit, cette piste de l'uniforme, finalement, elle va surgir et se dessiner, mais ça va être un peu long.
Oui, ce sera plutôt dans les années 2001, quand ces cas du début seront rapprochés par l'ADN d'autres crimes qui n'ont rien à voir à première vue.
Pendant 8 ans, le Grêlet ne va plus faire parler de lui. Il est probable qu'il ait quitté la région parisienne ou qu'il soit tout simplement mort. Il va ressurgir jusqu'à ce qu'il soit enfin cerné grâce à l'ADN. Pour ses 3 premiers crimes, Cécile Bloch, Sarah et Marianne, le Grêlet avait frappé un lundi. Cette fois, c'est un mercredi, le 29 juin 1994, qu'il réapparaît. Vers 14h, un homme conduisant une voiture blanche, un modèle Volvo 340, s'arrête à hauteur de Ingrid, 11 ans, sur un chemin qui longe une voie ferrée près de Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Il se présente comme policier, avertit la petite fille qu'il va l'emmener au commissariat. Ingrid, obéissante, monte à bord. L'homme roule une 60aine de kilomètres jusqu'à la ferme de Villeras, dans l'Essonne, une bâtisse en ruine, fréquentée par des zonards. Ingrid est violée. À 17h, quand l'individu s'absente, elle prend la fuite. Au policier, elle décrit un homme aux grosses mains qui a longuement observé en silence une photo avec 2 fillettes blondes qui étaient peut-être ses enfants. Un automobiliste suspect est rapidement arrêté, mais Ingrid ne le reconnaît pas. En revanche, elle identifie formellement son violeur dans un classeur qu'on lui présente. Elle désigne un portrait robot, celui du Grêlé. La juge d'instruction, Brigitte Brun, décide d'utiliser l'ADN, technique qui commence à s'imposer dans les enquêtes. Le généticien Olivier Pascal du laboratoire de Nantes est ainsi le premier à identifier l'empreinte génétique du Grêlé, séquence XY, numéro 16-17-16-17-7-9-3, un matricule que certains enquêteurs vont connaître par cœur. L'ADN est formel. Les crimes perpétrés contre Cécile, Sarah, Marianne et Ingrid sont bien l'œuvre du mystérieux Grêlé. Tout comme un massacre non résolu 7 ans auparavant dans un appartement du Marais à Paris. À l'époque, les policiers avaient découvert une scène digne de l'enfer de Dante. 2 corps suppliciés, un homme entièrement nu, Gilles Politi, mécanicien de la compagnie Air France, le corps ligoté par des cravates, des ceintures, des foulards trouvés sur place, étranglé par un lien serré autour de la gorge. Et dans une chambre, la baby-sitter de la famille, Irmgard Müller, 20 ans, égorgée. Elle aussi a été ligotée puis suspendue au montant d'un lit superposé. L'ADN du Grêlé est présent. La gardienne a vu un homme en jean entrer dans l'immeuble au moment du crime. Il était de toute évidence l'amant en colère de la jeune Allemande. Il l'a insultée dans l'interphone avant de monter. Dans un carnet de la baby-sitter, la crime trouve 30 noms d'hommes. 29 sont vérifiés. Le 30e va rester une énigme. Un certain Élie Lorange, un nom qui n'existe pas et qui a donné une drôle d'adresse dans le 13e arrondissement. Un immeuble en ruine, une ancienne annexe administrative de la préfecture de police. Décidément, gendarmerie, police, le tueur porte-t-il un uniforme ? 35 ans vont ainsi s'écouler sans que les juges d'instruction successifs, il y en aura 9 au total, ne puissent retrouver la trace du Grêlé. Le dossier Cécile Bloch est frappé en 1994 par un non-lieu. Pas d'éléments suffisants pour retrouver l'auteur du crime. Mais les policiers de la brigade criminelle font tout pour que la procédure continue. Au mois de mars 2005, avec un nouveau juge, le 36 quai des Orfèvres lance un vaste coup de filet destiné à interpeller 135 suspects. 250 personnes au total avaient été, dans un premier temps, ciblées. Les prélèvements ADN s'avèrent infructueux. En 2014, une nouvelle juge, Nathalie Turquet, reprend l'affaire. Elle va multiplier les vérifications et revenir à une piste qui se dessine depuis longtemps. Celle d'un homme qui a servi dans les forces de l'ordre, plus précisément gendarmerie ou armée. Christian Flech, ancien patron du 36 Quai des Orfèvres, et à l'époque, vous avez suivi cette affaire, évidemment, vous étiez déjà au 36 à la brigade criminelle. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Christian Flech. Vous avez, vous, rencontré à l'époque la famille Bloch, c'est-à-dire la famille de la petite Cécile. C'est un rendez-vous qui a marqué votre carrière et qui sans doute, vous vous souvenez parfaitement aujourd'hui. Qu'est-ce qui dit le demi-frère de Cécile sur ce grêlé? Parce que c'est son premier portrait robot qui va permettre de faire avancer beaucoup l'affaire.
Vous savez, la brigade criminelle, quand elle prend une affaire, elle a d'abord les constatations sur cette affaire qui est spécialement glauque, et ensuite elle a la douleur des familles qu'elle doit aussi absorber. Et ça, c'était très très difficile, et spécialement les parents, et encore plus spécialement le père, était complètement effondré, et il y avait des relations même qui étaient assez difficiles avec le juge d'instruction sur ce dossier. Le demi-frère nous permet d'établir un portrait robot avec les techniques de police techniques et scientifiques de pas celles que nous pouvons avoir aujourd'hui. Mmh. Ce portrait robot, il a le mérite d'exister, de fixer un peu la mémoire des gens, et puis, comme vous l'avez expliqué, trouver une autre jeune fille qui peut le reconnaître comme étant celui de son agresseur.
Et il n'est pas si mal, effectivement, ce portrait robot, parce qu'il va être reconnu à plusieurs reprises. Hein. Donc il fait tilt.
Non, c'est pas sûr.
C'est une orientation d'enquête, en tout cas. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet aussi, dans l'esprit de tout le monde, de fixer un peu le point où nous en sommes. Et vous avez résumé la question d'ADN. Vous voyez bien que ce fichier d'ADN, que Patricia peut expliquer aussi,
on va en parler,
mieux
moi,
ce fichier d'ADN a mis des années avant d'exister.
Ouais,
il y a d'abord eu la technique d'ADN, il y a d'abord eu les prélèvements d'ADN, et ensuite il y a eu la capacité de comparer les traces avec un fichier.
Et Christian Flech, je vais pas vous envoyer des fleurs, mais c'est tout de même la brigade criminelle qui le sauve, ce dossier, parce que quand la juge décide qu'il rend non-lieu sur cette affaire, notamment l'affaire de la petite Cécile Bloch, là c'est les policiers qui prennent vraiment les rênes, et vous allez tout faire pour trouver de nouveaux éléments et surtout garder ce dossier vivant, c'est vrai ça?
Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'il y a eu 9 juges d'instruction. Il faut souligner aussi le travail de ces 9 juges, et spécialement le travail de Nathalie Turquet, qui est la dernière, qui a cru aussi et qui a permis qu'on lance des investigations qui portent sur 750 suspects qui ont tous la particularité d'avoir un lien avec la gendarmerie.
Oui. Et effectivement, ça a été une opération d'envergure. Peut-être le coût de la dernière chance, mais il a été payant.
Non.
Allez-y, Christian.
Non, c'est le dernier coup. C'est celui qui était le bon, mais je suis sûr que si ça n'avait pas été bon, les policiers avec la juge auraient eu une autre piste. Vous savez, la brigade criminelle passe son temps, et ça a été encore plus vrai en 35 ans, à ouvrir des portes, à explorer des pistes, et ensuite à les refermer quand c'est pas bon. Mmh. Et puis après, quand on a d'autres éléments, en l'occurrence là, il y avait un ADN, et l'ADN n'était pas identifié, quand on a des idées, eh ben on continue, on essaye d'explorer. C'est ce qui est encore, enfin, vous en parlerez sans doute après, mais maintenant on va être obligé de reconstituer 35 ans de son passé.
Oui, on va en parler. Évidemment, oui. On va en parler. Et ça c'est une note, c'est l'acte 2 finalement de l'enquête qui démarre.
Aussi intéressant.
Aussi intéressant et peut-être même plus important et plus intéressant, parce que là on va rentrer vraiment dans la vérification avec des bases beaucoup plus solides. Patricia Tourancheau, qu'est-ce que dit ce dossier à ce moment-là où il y a un peu d'ADN déjà, on a reconnecté tout ça, on a une vision un peu plus précise de ce qui pourrait être l'auteur finalement.
Du coup, quand le rapprochement ADN de 5 dossiers survient, donc on est en 96, enfin ce sera 2001 pour le cas du double meurtre du Marais, là, les policiers de la CRIM, en tout cas les Pasqualini, les Flech, les West etc., se disent mais punaise, jamais tout seul, jamais sans l'ADN, on aurait pu rapprocher les cas d'assassinat de la petite Bloch, de viol de la petite Sarah, de Marianne, avec un double crime double, dans le Marais, avec Ingrid sur une route de Mitry-Mory. Ce n'est pas le même mode opératoire.
Complètement.
Et ce ne sont pas le même genre de victimes, forcément.
Alors, dans l'histoire du double meurtre du Marais, histoire qui est très intéressante, même si elle ne ressemble pas aux autres crimes du Grélet, dans ce double meurtre, le père de Gilles Politi, qui est donc la victime, va dire que ce crime, c'est une action d'un homme qui sait se battre, une action de commando.
De commando, oui, exactement, ou de Klaus Combat, disait M. Politi. Oui, parce que franchement, la manière dont est attaché M. Politi, il a des liens autour du cou, les bras dans le dos, attaché avec les chevilles, le tout, tous ces liens qui étaient des ceintures de peignoir, des trucs trouvés sur place, entortillés autour d'un tisonnier. C'est ce qu'on appelle un garrot espagnol, c'était une torture pratiquée sous l'Espagne, dans l'Espagne franquiste. Et c'est pas n'importe qui peut le faire. Alors certes, certains disaient, ça peut être un adepte du bondage, technique de sadomaso. Ouais. Mais quand même, là, il y a un truc qui fait tilt. La petite Irmgard Müller, elle est suppliciée, les bras en croix. Les deux ont été brûlés avec une cigarette, dont le mégot est d'ailleurs retrouvé par terre, ce qui permettrait d'avoir l'ADN. C'est quand même, un peu signé.
Mais il y a une espèce de folie sadique, hein? Une folie meurtrière sadique.
Ah oui, totalement.
Et de mise en scène, de volonté de mise en scène.
Exactement. Vraisemblablement parce que le Grélet connaît la petite Müller et il a été son amant. Ça s'est prouvé dans le dossier et il a passé la nuit précédente avec elle. Et là, pour une raison X, par jalousie très certainement, il se venge et du coup, il les torture.
35 ans après la mort de la petite Cécile Bloch, la justice va abattre son ventoux. Une vaste campagne ADN visant une population qui pourrait abriter le Grélet. Les anciens gendarmes qui étaient en poste à Paris au moment des crimes. Depuis de longs mois, la juge Nathalie Turquet, vice-présidente en charge de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris, 9e magistrat instructeur dans le dossier du Grélet, étudie la possibilité de lancer une grande campagne de tests ADN au sein d'une catégorie professionnelle parfaitement ciblée, les anciens gendarmes. Elle s'appuie pour cela sur les avis de la brigade criminelle qui évoque depuis belle lurette la possible présence d'un ancien militaire derrière les crimes. 750 gendarmes qui ont servi dans la capitale à la période à laquelle sévissait le Grélet sont ainsi recensés. La gendarmerie nationale a ouvert ses archives. Les convocations commencent à s'égrener. Le vendredi 24 septembre, une policière de Montpellier appelle ainsi François Vérove, 59 pour le prévenir d'une convocation le mercredi suivant, 29 septembre. Un simple test ADN, ça ne prendra que 5 minutes, précise-t-elle. Vérove a été gendarme à Paris dans les années au milieu des années 80. Il a quitté la fonction en 1988. Date intéressante, c'est à cette période que le Grélet a disparu une première fois de la circulation. Vérove a alors rejoint la police pour devenir motard dans les Hauts-de-Seine, puis à Montpellier. Le 29 septembre, il ne vient pas au rendez-vous. Son épouse indique qu'il est parti le lundi au Gros du Roi, où il loue souvent une maisonnette Airbnb. On le retrouve mort, absorption massive de médicaments. L'ancien gendarme a laissé une lettre. Il reconnaît des crimes, sans citer lesquels, mais en donnant des dates. Il fait part de sa volonté d'en finir afin d'éviter que sa famille soit éclaboussée par le scandale à venir. Il indique qu'il a tué car il avait des pulsions qui seraient liées à ses années d'enfance. Des pulsions passées qu'il a surmontées car il s'est pris en main. Il aurait mis un terme à son entreprise criminelle à partir de l'année 1997. Après avoir rencontré sa femme et avoir eu des enfants, normalisation qui l'aurait apaisé, François Vérove affirme que dès lors, il n'a plus jamais tué. Reste à savoir s'il faut le croire. Patricia Touranchot, notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste et spécialiste des affaires criminelles et qui connaît parfaitement ce dossier sur lequel vous avez beaucoup écrit dans certains ouvrages. Alors c'est le rebondissement le plus fou auquel on pouvait s'attendre. Déjà, qui est ce François Vérove?
François Vérove était en fait gendarme à la garde républicaine à Paris entre 83 et 88. Il s'occupait de chevaux, la cavalerie. Ce qui expliquerait d'ailleurs l'odeur de l'agresseur, du grêlé, qu'avait remarqué le frère de Cécile Bloch dans l'ascenseur.
C'est ça. Il sentait mauvais.
Ouais, il sentait pas le propre, quoi. Pas franchement mauvais, mais un truc bizarre. Genre un peu comme la nature, l'herbe. Voilà. Et Ingrid, après, en 94, elle a remarqué aussi une odeur, elle disait un peu comme une odeur de chien. Et voilà, tout ça peut correspondre aux chevaux, en fait, dont s'occupait François Vérove. Ensuite, comme vous l'avez dit, il quitte la gendarmerie, apparemment pas en très bons termes. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ça n'allait plus avec la gendarmerie. Et il rentre dans la police nationale, policier en tenue, en sécurité publique, donc en banlieue parisienne. Et moi, on me dit qu'il était dans le 77, c'est-à-dire en Seine-et-Marne, en 1994, quand Ingrid a été enlevée sur une petite route, la Dimitri Maury, soi-disant pour un contrôle d'identité, quand même. Hein. C'est ça, le départ. Le type, il se présente comme un policier, t'as ta carte d'identité, la petite 11 ans, elle est en train de jouer dehors avec son vélo, ben non, elle l'a pas, eh ben je t'embarque. Et il l'a menottée, quand même. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà, il faut se souvenir de ça. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là, c'est plutôt à partir de 94, quand ça fait la deuxième gamine qui est approchée par quelqu'un qui se présente comme un policier, avec une carte tricolore, avec des menottes, avec un talkie-walkie, etc., que la brigade criminelle va vraiment s'occuper de cette piste.
On va resserrer là-dessus. Hein,
voilà, sur un maître chien, un agent de sécurité, de, par exemple de l'aéroport de Roissy, qui n'est pas très loin du lieu où Ingrid a été violée, de policiers, de candidats au concours de police ayant été recalés, parce que les enquêteurs, aidés par une psychocriminologue, se disaient que le type était tellement frustré, là, ce grêlé, que peut-être il avait envisagé de faire un métier d'autorité, qu'il n'avait pas réussi, qu'il avait échoué au concours. Donc ils ont beaucoup cherché des candidats recalés. Or, ce François Vérove, on voit aujourd'hui qu'il était parfaitement inséré dans la police nationale. Il était même syndicaliste, délégué des motocyclistes, de la préfecture de police de Paris et du département des Hauts-de-Seine. Et que ce type est passé à travers les gouttes parce qu'il connaît les procédures de police.
C'est ce qui lui permet finalement de disparaître. Hein.
Ben bien sûr. Bien sûr, et il s'échappe dès que ça sent mauvais pour lui, dès que c'est trop dangereux, à partir du moment où certains cas imputés au grêlé sont reliés par l'ADN et qu'il le sait, il s'arrête. Lui dit dans sa lettre posthume à sa femme qu'il s'est arrêté en 97. Déjà, la brigade criminelle avait perdu sa trace en 94.
Bien sûr, il y a un trou de trois ans qu'on va explorer et sur lequel, évidemment, on va revenir dans l'heure du crime. L'ADN de François Vérove va matcher aux yeux de la justice. Il est bien le grêlé, cet homme qu'elle poursuit depuis 35 ans. Enquête qui n'est pas pour autant terminée. La personnalité de l'intéressé pourrait réserver d'autres surprises. Le suicide de François Vérove est loin de mettre un coup d'arrêt à l'enquête. Avant de rendre ses conclusions, la juge turquée va se pencher désormais sur la trajectoire de l'ancien gendarme, remonter de sa naissance à Gravelines dans le Nord jusqu'à sa mort dans le Midi. Ses papiers, carnets, notes et ordinateurs saisis dans la maison de la Grande Motte vont ainsi être passés au crible. Son épouse, déjà entendue par les enquêteurs, sera reconvoquée. Celle-ci avait bien senti à une époque un trouble profond et ancien chez son mari. Ses deux enfants, François Vérove avait notamment une fille entrée dans la police, ainsi que des relations de son entourage vont également témoigner. L'enquête sur la trajectoire de François Vérove, alias le Grêlé, pourrait ainsi prendre de longs mois, voire davantage. Les crimes non résolus et les dossiers de viol de ces 20 dernières années commis dans la région de Montpellier, la région où vivait le tranquille pré-retraité François Vérove, vont être systématiquement réétudiés. Dans sa lettre d'adieu et d'explication, François Vérove affirme qu'il n'a rien fait depuis 1997. Une affirmation qui laisse le champ libre à bien des spéculations. Ainsi, est-il derrière le meurtre de Karine Leroy, 19 ans, qui se rendait à son lycée à Meaux, en Seine-et-Marne? Elle avait été retrouvée le 12 juillet 94, morte par suffocation et étranglement selon une méthode déjà éprouvée par le grêlé. Les avocats Didier Seban et Corinne Herman avaient demandé et obtenu la réouverture de ce dossier. Meaux, est un secteur où aurait pu sévir le grêlé. Malheureusement, les scellés du dossier Karine Leroy, mal conservés, trop dégradés, n'ont pas permis à ce jour de livrer des résultats probants. Après 1994, Vérove est-il resté le grêlé ? Ou tout au contraire, informé des avancées spectaculaires de l'ADN à la fin des années 90, avait-il choisi de cesser à ce moment-là toute activité criminelle ? Question centrale que vont devoir trancher les enquêteurs. Bonjour Jacques Dallest.
Bonjour.
Merci beaucoup Monsieur Dallest, procureur général de Grenoble, de nous accorder quelques minutes dans cette heure du crime. Alors évidemment, je dis tout de suite, vous n'avez pas travaillé sur cette affaire, vous n'en avez jamais été saisi, mais vous connaissez bien les cold cases et ce genre de problématiques. Vous avez d'ailleurs dirigé un groupe de travail dans ce sens au sein de la justice. Une question un peu technique, Jacques Dallest. La personne est morte, on sait que c'est le grêlé, il laisse une lettre même témoignée posthume. Comment peut se dérouler désormais l'enquête sur quelqu'un qui n'est plus là et dont on n'entendra pas le témoignage ? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là ?
Alors, vraisemblablement, le juge d'instruction va pour son instruction sur cette affaire, ne serait-ce que pour conforter les éléments à charge contre cet individu, être bien certain que c'est lui le responsable de ces méfaits, mais également connaître son parcours, approfondir son parcours criminel de façon à éventuellement identifier d'autres crimes qu'il aurait pu commettre, ne serait-ce que là aussi pour une famille et dans l'intérêt des victimes. Certes, il ne sera pas jugé, c'est ce qu'on appelle l'extinction de l'action publique, mais néanmoins, l'affaire ne va pas s'arrêter là. Et je dirais qu'il faut aussi envisager l'hypothèse, même si elle est peu vraisemblable, qu'il ait agi avec un complice ou un co-auteur.
Ah oui, pourquoi pas.
Donc, il faut... Pourquoi pas ?
Oui, évidemment. Et ça, Jacques Dallest, ça peut durer des mois, des années ?
Ça peut durer un temps très, très incertain, qui est à l'appréciation des enquêteurs du juge d'instruction. Mais je crois que dans une affaire comme ça, il faudra encore sans doute quelques mois d'investigation pour essayer d'avoir la vision la plus exhaustive des crimes commis par l'intéressé, savoir avec qui il était, voir s'il n'a pas pu agir dans d'autres affaires et dans d'autres régions de France.
Donc on est loin d'en avoir terminé avec le grêlé, Patricia Touranchot. Je le citais, il y a le cas très troublant de Karine Leroy. On est dans ce secteur de Meaux où il a peut-être été en poste, où il sévissait.
Et la Seine-et-Marne, où Ingrid avait été kidnappée et violée, c'était exactement le même secteur à la même époque, en 94. Et effectivement, il y a sur Karine Leroy une manière d'attacher aussi qui peut ressembler, qui présente des similitudes avec les liens sophistiqués qui attachaient monsieur Politi en 87.
Alors il y a ce trou, j'en parlais, il dit je me suis arrêté en 97, j'ai plus rien fait, j'ai plus tué depuis.
Oui c'est ça, mais déjà...
On a 3 ans, 94-97, oui, il y a parce une espèce de zone grise, ou blanche comme on voudra.
La brigade criminelle pensait que perdait sa trace en tout cas sur le 29 juin 94, après la séquestration et le viol de Ingrid. Et donc, ça veut dire que là, on a au moins 3 ans, s'il est permis de le croire, où il a commis d'autres viols ou assassinats. Il faut les trouver. Et il y a la région quand même... Vous savez, il a été muté avant Montpellier. Il était en sécurité publique du côté de Marseille.
Oui, c'est ça.
Voilà, là aussi...
Donc, ça va être cette grande région du Sud-Est qui va être passée au crible.
Mais bien sûr, bien sûr.
Avec sans doute d'autres crimes à la clé. Oui. L'enquête sur le grêlé est en partie résolue, mais celle sur l'ancien gendarme François Vérove ne fait que commencer. Nouveau secret, nouveau mystère pour la brigade criminelle, l'acte 2 d'un travail entrepris il y a 35 ans. Une brigade criminelle qui est donc très loin d'en avoir fini avec le grêlé et ses victimes. Un homme dont le nom revient en filigrane derrière un autre meurtre inexpliqué. Celui, le 4 décembre 91 à Paris, de Sophie Narme, 23 ans, jeune agent immobilière, étranglée avec une ceinture. Son corps avait été retrouvé roué de coups et à moitié dévêtu. Du sperme avait été prélevé sur la scène de crime, mais l'échantillon... égaré par l'Institut médico-légal, n'a jamais pu livrer ses secrets. Un crime qui pourrait porter la signature du grêlé. Le jeudi 30 septembre 2021, jour de l'identification du grêlé, Bernard Pasqualini, policier qui avait dirigé le tout premier groupe d'enquête sur le grêlé, Pasqualini, a poussé un soupir de soulagement. Comme plusieurs de ses collègues, il n'avait jamais accepté de ne pas retrouver l'assassin de Cécile et le violeur d'autres victimes. Depuis ses 35 dernières années, il conservait sur son bureau le portrait robot du grêlé. L'imaginant vieilli et s'interrogeant sur son sort, il avait également avec lui la photo de la petite Cécile Bloch. Après le crime, les Bloch, dévastés par ce malheur, avaient quitté Paris. Après avoir lutté de nombreuses années pour exiger des expertises ADN et davantage de moyens, Jean-Pierre Bloch, le père, était mort de chagrin, victime collatérale de François Vérove, alias le Grêlé. Jacques Dallest, procureur général de Grenoble, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Vous avez piloté un groupe de travail sur les cold cases et cette volonté peut-être de créer un pôle national chargé des crimes en série non élucidés. Je suppose que cette affaire, elle donne de l'eau, à votre moulin. C'est-à-dire que si on avait un pôle dédié aux tueurs en série, peut-être on serait allé plus vite.
Oui, bien sûr, ça correspond ce projet à ce qui se passe du côté des services de police et de gendarmerie qui maintenant se sont dotés de services spécialisés dans les cold cases. Et je pense, et j'ai pensé qu'il était bon que la justice s'organise de manière similaire avec un pôle national ou même, je pense, plusieurs pôles qui seraient interrégionaux et qui pourraient centraliser le traitement judiciaire de ces crimes énigmatiques dont on s'aperçoit qu'ils ont lieu un peu partout en France et qu'ils sont assez nombreux.
Est-ce que vous pensez, parlons clairement, Jacques Dallest, est-ce que vous pensez que si on avait ce genre de structure, on serait allé plus vite dans ce dossier? On aurait pu peut-être regarder plus vite les profils des uns et des autres?
On pourrait le penser. Cela dit, on voit la pugnacité de juge d'instruction, d'un juge d'instruction qui...
Et de la crime, oui.
Voilà, et avec les services d'enquête qui connaissent le dossier, il faut que les acteurs judiciaires, enquêteurs, magistrats travaillent ensemble de façon volontaire, qu'on ne renonce pas. Mmh. Je dis toujours que le mot d'ordre dans les cold cases, c'est ne jamais renoncer, ne jamais s'avouer battu, ne jamais clôturer un dossier, espérer qu'un jour l'ADN parle, qui est évidemment la preuve idéale, hein, un élément d'accusation qui est peu contestable. Et donc il faut surtout pas se dire on a épuisé toutes les pistes, il faut donc du temps, de la disponibilité intellectuelle, de la disponibilité et surtout une vraie envie.
Patricia Touranchot, on entend ce que dit Jacques Dallest, oui. Hein, cette pugnacité qui est nécessaire pour faire aboutir ces dossiers.
Oui, il a raison, monsieur Dallest. Franchement, dans les cold cases, ce sont des années, des dizaines d'années, là, où, effectivement, il ne faut pas renoncer. Dans le cas du Grêlé, les dossiers ont été fermés, ont été rouverts, ont été refermés, ont été rouverts. Après, ils ont été joints entre eux. Certains, aujourd'hui, ne sont pas reliés formellement à ceux du Grêlé parce qu'il n'y a pas d'ADN, comme le cas de Sophie dont vous parliez tout à l'heure.
Sophie Narme.
Ou celui de Karine Leroy. Néanmoins, il faut une persévérance à toute épreuve. Or, les juges d'instruction et puis les officiers de police judiciaire, ils ont autre chose à faire. Ils ont plein d'autres dossiers qui arrivent. Donc, comme le dit le procureur d'Alest, c'est bien qu'il y ait des structures dédiées bien à sûr. Ça, qui prennent leur temps, qui n'aient pas 36 000 dossiers sur les bras à enquêter.
Parce que effectivement, si Karine Leroy et Sophie Narme peuvent être reliés d'une manière ou d'une autre au grêlé, ça ferait 4 morts.
Ah oui, non mais déjà...
5 victimes, 5 meurtres.
5 dossiers criminels officiellement imputés à François Vérove, mais moi j'en ai une liste là bien plus importante. Et déjà, par exemple le cas de Sophie... La même juge, Nathalie Turquet, l'instruit, l'a récupéré, ce dossier, parce qu'il a été relié grâce au Salva, qui est un logiciel maintenant de détection des séries, mais elle l'instruit à part de celui du grêlé, puisque le sperme ayant été perdu, les échantillons foutus, il n'y a pas l'ADN de ce type. Mais elle l'a à côté. Le dossier de Karine Leroy, il est instruit aussi à côté. Mmh. Et donc, comme ça, je pense que beaucoup d'autres dossiers vont se réunir. Par exemple, vous voyez, après le cas de la petite Muller, le double crime du Marais, en fait, il y a la petite Muller, elle était allemande, la jeune fille au père. 2 semaines plus tard, il y a une Allemande dans le même quartier qui a été violée par le grêlé. Ce cas, il n'y a pas d'ADN, donc il n'est pas officiellement relié, mais les enquêteurs lui imputent quand même. Bien sûr,
ça veut dire que de toute évidence, on va trouver, Patricia Tourangeau, juste un mot pour finir, mais on va trouver d'autres victimes, c'est évident.
C'est évident.
Merci beaucoup Patricia Tourangeau, Christian Flèche et Jacques Dallès, procureur général de Grenoble, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.